présenter les petits problèmes de son. Et donc, c'est très à la mode. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Donc, en fait, c'est devenu très à la mode depuis que M. Macron a dit qu'il débloquait une enveloppe financière conséquente sur le sujet, malgré tout. Voilà, ça fait quand même quelques années que nous n'avions pas entendu cette annonce. Bien sûr, pour travailler sur ces sujets, le sujet n'est pas apparu comme ça brutalement dans le paysage audiovisuel français. Il est dans l'industrie nucléaire. Nous étions déjà pas mal investis dans des études qui permettaient de dire, voilà, on a quelque chose, on a une petite pépite dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ben, l'idée, c'est de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, levez la main. Je peux m'interrompre à tout moment. On est là pour ça. Et échanger d'abord, avant tout. Donc ces projets, donc, on est bien sur des réacteurs électrogènes. Certains vont dire, oui, mais c'est concurrent peut-être des EPR, ou alors ça veut dire que les EPR, c'est plus la voie. Non, c'est pas ça le raisonnement. Le raisonnement, c'est qu'il y a un réseau électrique qui existe, qui est mature, comme on l'a souvent en France, et on est capable de mettre des EPR, et le réseau va le subir, va l'accepter sans trop de frais de mise en œuvre. Et puis il y a des pays, développés au niveau du réseau électrique, où le réseau n'est pas capable d'accepter un EPR. Il y a encore pas mal de l'Arsen, M. Fournier, si vous pouvez nous aider un tout petit peu là-dessus. Et donc, du coup, dans ces pays, plutôt que d'avoir des frais d'investissement extrêmement importants, on va préférer mettre des petits réacteurs, c'est ce dont je voulais parler. Et donc c'est bien un complément, c'est un produit qui est prévu quand même pour l'export plus que pour le marché français. Et donc malgré tout, c'est quand même un très gros espoir pour l'industrie française, européenne aussi. On a une vocation de s'élargir, enfin d'étendre. Aujourd'hui on est très franco-français, mais quand même volonté d'étendre un petit peu le périmètre de réalisation à d'autres pays européens. Mais l'idée, c'est de promouvoir ce type de produit dans le monde entier. Donc c'est un produit à l'export, essentiellement. Il est orienté comme ça dès le départ. Encore une fois, n'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre. Voilà, donc en fait, c'est d'abord, qui travaille sur ce sujet de petits réacteurs électrogènes? Alors, c'est un groupement, comme je le disais, franco-français, EDF, leader de la filière française du nucléaire civil, est aussi le pilote de ce projet. Pilote et aussi financeur, quand même, en grande partie, avec l'État. Et donc, en acteur, le CEA, Naval Group, Technicatome, dont je vous parlerai un petit peu plus, c'est mon entreprise, donc j'en profite un peu pour vous faire découvrir cette entreprise un peu particulière. Et puis Framatome commence à rentrer dans le sujet aussi, puisque bon, pour l'instant, il n'était pas vraiment dans les études, mais petit à petit, Framatome arrive et vient nous rejoindre pour le développement de ce produit. Donc on est bien sur un projet français avec de plus en plus d'autres industriels qui nous rejoignent. Tractebel commence à avoir un rôle extrêmement important. Et puis on essaie de trouver des partenariats, soit avec des clients, soit avec des fournisseurs européens. On construit même un club utilisateur, un club de futurs utilisateurs. Il faut voir qu'en fait, ce marché, il n'y a pas de marché aujourd'hui. On est dans une... Finalement, on est un petit peu comme les pionniers de l'automobile, les pionniers de l'aéronautique. Ils ont développé un produit sans trop avoir de spec. Il n'y avait pas de marché. Ils allaient, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Il fallait qu'ils trouvent le meilleur produit. Nous, on est un petit peu comme ça aujourd'hui. On ne peut pas vraiment dire qu'on est un client qui nous attendent les bras ouverts et qui soit prêt à nous acheter un SMR. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Il y a des pays, il y a beaucoup de pays, le Canada en tête, on va y venir tout à l'heure, qui disent, si je respectais mes objectifs de la COP, alors la COP maintenant, c'est la COP 26, hein, pour 2050, il faut que je décarbone. Et pour décarboner, il faut que je passe par le nucléaire, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives massives sur le court terme. À moyen et à long terme, oui, mais sur le court terme, il n'y en a pas. Donc il faut que je passe par cette étape nucléaire. Et pour cette étape nucléaire, les SMR, c'est vraiment le produit qu'il faut. Mais, voilà, qu'est-ce que vous, industriels, êtes capable de nous fournir? Eh bien, dans le monde, aujourd'hui, il y a près de... Enfin, l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a recensé plus de 70 projets en cours de développement. Et on va voir, ben, New World en est un. Donc l'idée, c'est vraiment, parmi la multiplicité de ces projets, on va avoir de tout. On va avoir des tout petits réacteurs qui vont faire quelques mégawatts, même peut-être certains inférieurs aux mégawatts, et d'autres qui vont faire l'équivalent d'un 900 mégawatts. Alors on dit toujours SMR, vous allez voir pourquoi. C'est vrai qu'on est un peu en limite là, hein, quand on arrive aux 900 mégawatts. Par contre, donc Technicatom, avec ses partenaires, on est parti sur un réacteur qui fait 340 MW électriques. Donc on est vraiment dans la moyenne puissance. Donc c'est pour ça qu'on appelle SMR, small. On est dans un réacteur modulaire. Avec un objectif, c'est de remplacer les centrales à charbon. Donc on est bien dans l'aspect décarbonation. En objectif COP26. Donc en fait, on retire une centrale, on démantèle une centrale à charbon, c'est l'illustration que vous voyez, et en lieu et place, sans modifier le réseau, on installe un réacteur nucléaire. Souvent, ces centrales à charbon, elles sont construites à proximité d'une source froide, c'est souvent le cas. Donc on va bien évidemment bénéficier de cette source froide pour refroidir le réacteur. Et un élément important, c'est réacteurs à charbon, ces centrales à charbon, elles sont souvent placées à proximité de villes moyennes. Ah oui, parce qu'en fait, à un moment, elles ont servi à alimenter justement la croissance de ces villes moyennes. Donc ça veut dire qu'en fait, dans les petits réacteurs nucléaires qu'on va implanter, ça c'est un élément nouveau, il va falloir qu'on soit compatible de la sûreté et de la sécurité qui nécessite la proximité de ces villes moyennes. Donc en fait, ils vont tous avoir une propriété qui n'est pas dans le nom, ce qu'on appelle la sûreté passive. C'est-à-dire que si, comme à Fukushima, on devait perdre toute alimentation électrique, toutes les pompes et tout, enfin on n'arrive plus à refroidir le cœur par le système lui-même, il faut qu'on puisse refroidir, passer en état sûr, donc avoir des degrés de sûreté suffisants pour qu'on n'ait pas d'accident nucléaire sans intervention de pompiers, de spécialistes, bref, de personnes qui vont prendre des risques pour intervenir. Donc, et ça pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, le projet qu'on construit est capable d'être en autonomie complète pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un incident grave, on est vraiment dans les cas extrêmes, hein. On peut quitter le site et laisser le système se débrouiller tout seul pendant 3 jours. C'est énorme, 3 jours. C'est largement le temps qu'il faut pour se préparer à intervenir. Et évidemment, l'intervention, elle est relativement facile aussi, parce que quand on en est là, à ce niveau de sûreté-là, évidemment, les interventions qu'on doit faire, elles sont simples. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est dans des niveaux qui vont nous permettre, et la réglementation typiquement aux États-Unis est en train d'évoluer largement dans ce sens-là, c'est-à-dire que les Américains sont en train de dire il faut que les petits réacteurs, les SMR, puissent s'implanter à proximité de villes moyennes, et donc qu'ils soient aussi en cas d'incident avec un impact très limité sur l'environnement. Il ne s'agit pas d'aller contaminer les habitants aux alentours. Voilà. Je pense que j'ai essayé de donner un peu les particularités de ces petits réacteurs électrogènes d'une façon générale. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis après, on rentrera vraiment dans le détail de notre projet français. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle donc d'une course qu'il y a en ce moment dans le monde entier pour développer des réacteurs pour la prochaine décennie, pour les années 2030. 2030, ça va être le tout début, hein, clairement. Aujourd'hui, les projets les plus avancés, je suis pas bien sûr qu'en 2030, on les voit. Malgré tout, ce sont les Américains qui sont en tête, hein, aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie stratégie industrielle aux États-Unis de dire... Les États-Unis ont perdu à un moment la bataille du nucléaire au profit des Européens, les Français en particulier, mais d'autres, au profit de l'Asie aussi, hein, les Chinois essentiellement, qui aujourd'hui investissent massivement dans le nucléaire. L'industrie américaine est passée au second plan et ils veulent reconquérir ce marché, redominer le marché du nucléaire. Et donc ils ont investi énormément dans leur industrie, dans leur centre de recherche, dans des nouvelles installations de R&D pour pouvoir être à nouveau les maîtres du monde sur ce sujet. Donc ça veut dire qu'ils se sont dit, bah, on investit massivement sur les nouvelles générations de réacteurs, ce qu'on appelle la Gen 4, mais aussi en génération 3, donc la génération avec le niveau de sûreté actuel, la technologie actuelle, ils vont investir sur les petits réacteurs, puisque le marché n'existe pas. Évidemment, ils sont mis dans des segments où le marché est en développement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est avec une concurrence américaine extrêmement forte, des produits américains qui sont déjà licenciés. Hein, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais toutes les qualifications auprès des autorités de sûreté sont passées aux États-Unis pour un de nos concurrents qui est NuScale. Donc aujourd'hui, ils sont même en phase d'être licenciés au Canada. Donc ça veut dire qu'ils sont dans les phases très avancées du développement des réacteurs et prêts à construire un premier de série. Hein, donc aujourd'hui, ils ont même un site qui les accueille et sur lequel ils sont prêts à construire. Bon, ils ont un autre problème, parce que les Américains, tout est pas merveilleux hein, chez eux. En fait, ils ont après des problèmes de financement, comme ils travaillent beaucoup avec des financements privés, donc ils arrivent à ficeler le budget pour arriver à aller plus loin. Nous, en France, on a un fonctionnement plus étatique, avec une budgétisation qui est un peu plus facile. Par contre, on a encore nos problèmes de licensing devant nous. Voilà, donc, ces petits réacteurs, en fait, on est dans une course économique compétitive pour trouver un compromis, le meilleur produit, on va dire, économique et technique. Un petit peu comme l'étaient les pionniers de l'automobile auxquels je fais référence tout à l'heure, ou les pionniers de l'aviation. On est dans le même schéma, donc en fait, il faut qu'on trouve un bon compromis performance-coût. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie des gros enjeux des SMR, c'est de se dire il faut qu'on arrive à produire un coût de l'électricité au kilowatt qui est pratiquement le même que celui d'un gros réacteur. On va voir tout à l'heure, c'est un vrai challenge. Alors, il y a les Américains, il y a les Européens, enfin les Français, et puis il y a aussi d'autres pays quand même qui avancent très fort. Les Chinois sont bien en avance aussi, hein, largement plus que nous. Il y a des réacteurs qui se développent en Argentine, en Russie, au Brésil, Corée, Japon. Enfin bref, tous les grands du nucléaire sont présents. C'est un marché sur lequel, finalement, tout le monde s'est dit, mais depuis plusieurs années, hein, il y a quelque chose à faire. La décarbonation passera par là, et c'est extrêmement important. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Donc vous voyez aujourd'hui la répartition dans le monde de tous les projets qui existent, hein, 70 projets dans le monde. Sur ces 70 projets, il y a de tout. On va trouver des réacteurs rapides, au plomb, au sodium. On va trouver des réacteurs... Alors, comme nous sommes dans des réacteurs à eau pressurisée, hein, dans des technologies identiques à celles qui sont sur le parc français aujourd'hui, ou sur les EPR, c'est le même type de technologie, c'est juste un effet d'échelle qui est plus petit, hein, c'est tout. Mais il y a aussi, on trouve quelques bouillants, quelques réacteurs bouillants. Là, je parle peut-être aux spécialistes, désolé pour ceux qui ne sont pas familiers de l'industrie nucléaire, n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est des modes de fonctionnement qui sont différents. On a des technologies self-fondues, des technologies sur les hautes températures, puis après des choses plus anecdotiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des projets, hein, rassurez-vous, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps, ce n'est pas le but. Par contre, on se rend bien compte qu'entre ces technologies, il y en a qui sont très expérimentées, où on a beaucoup de retours d'expérience, comme les réacteurs tels qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la génération 3, hein, c'est ces réacteurs à eau pressurisée ou les réacteurs bouillants, qu'on trouve à peu près partout dans le monde, et que tous les majors du secteur savent réaliser depuis des années et des années. Donc on sent bien que là, ces réacteurs-là, SMR, vont être en phase d'avant-projet, mais très vite, ils vont pouvoir basculer dans une phase commerciale. C'est le cas de New World, le projet français dont je vous parlais. Après, il y en a d'autres technologies où là, il va falloir que la maturité va prendre quand même quelques temps. Et vous voyez, les échelles de temps qu'on envisage sont beaucoup plus longues. On est sur ce qu'on appelle souvent des générations 4. Donc aujourd'hui, des réacteurs qui sont plus à l'état expérimental qu'à l'état vraiment de pré-industrialisation. Et la commercialisation, bien sûr, elle est très lointaine. L'AIEA nous dit, en fait, vous dites que vous êtes dans une phase de course compétitive pour trouver le meilleur produit et conquérir le marché. Mais en fait, non. Si on veut être la vision de l'AIEA, c'est de dire, si on veut être respecté la COP26 en 2050, les objectifs qu'on s'est fixés, que les États se sont fixés, il faut que tout le monde soit là. Il faut y aller. Tous les projets doivent être... Il n'y a pas de compétition, en fait. Tous les projets doivent réussir. On sait très bien, malgré tout, que sur les 70, il n'y en a que quelques-uns qui verront le jour à la fin, qui iront jusqu'au bout, jusqu'à la phase verte de commercialisation. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si on met tout bout à bout les réacteurs EPR, le parc existant, tous les réacteurs en construction, et notamment en Chine, où il y en a quand même beaucoup, plus tous les SMR, on ne tient toujours pas les objectifs que le nucléaire devrait tenir pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre et notamment des objectifs climatiques. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de vraie compétition, ce que nous dit l'Organisation internationale sur l'énergie atomique. Il ne devrait pas y avoir, il n'y a même pas de compétition, un marché pour tout le monde. Alors, comme je le disais, dans tous ces réacteurs, dans ces 70 réacteurs, il y a de tout. Tout le monde n'a pas la même puissance. Il y a des différentes technologies et tout le monde n'a pas la même puissance. On va trouver des réacteurs de très petite puissance qui sont plus pour des usages très locaux. À un moment, on parlait d'alimenter des îles, alimenter des bases isolées, des toutes petites villes sur lesquelles le réseau n'existe pas ou ça coûterait très cher de le faire. Dans la Russie du Nord, on a des très grandes étendues, construire, et eux, ils envisagent même de mettre des bateaux, de faire venir des barges pour alimenter ces villes-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie de créer un réseau qui va alimenter, qui coûterait très cher pour alimenter des villes isolées. Donc là, on va avoir des petits réacteurs. On va avoir des usages aussi pour faire des sites industriels dans lesquels il y a de forts besoins de consommation d'électricité. Donc là, c'est des réacteurs de taille un peu plus importante. Donc on voit 1500-200 mégawatts. Et puis, il y a tout ce qui est vraiment de la production à moyenne échelle. Donc on est dans la gamme des 200-400 mégawatts. Donc là, c'est là où on est, où New World, le projet français, se trouve. Donc on est vraiment dans cette gamme-là. Le réacteur New World, il fait 340 mégawatts. C'est, on va le voir, la grande majorité des centrales à charbon se trouve dans cette gamme de puissance. Je prends un exemple qui est le pays le plus avancé aujourd'hui en termes de besoins, de celui qui serait acheteur des produits qui existent. Et donc, c'est le Canada, et qui aujourd'hui a des projets de développement extrêmement ambitieux sur l'ensemble des activités, donc des sites industriels, la production des zones industrielles de petite dimension. Ils veulent le remplacement des centrales à charbon, sur lesquelles nous concourons avec notre projet. Et puis, ils ont aussi une volonté de faire de la production de chaleur. Donc, c'est aussi un autre type de centrale qu'ils vont vouloir. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des marchés. Alors, c'est aussi un changement dans l'état d'esprit des clients potentiels. C'est que jusqu'à présent, les grosses centrales étaient achetées par des États, essentiellement. Là, on est sur des puissances plus faibles, des coûts plus faibles d'acquisition, une rapidité plus importante entre le moment où on décide de lancer le projet et le moment où ça produit. Et donc, finalement, il y a des industriels privés qui vont pouvoir se mettre sur ces marchés-là. Typiquement au Canada, on est sur des industriels privés qui achèteront ces produits. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un business model qui est fondamentalement différent. Ce qu'ils vont attendre, c'est que très très vite, il y ait de la rentabilité. Voilà, donc je disais Canada, les États-Unis évidemment, quand même, il y a beaucoup de produits aux États-Unis, mais aussi il y a beaucoup de demandes. L'Europe de l'Est est aujourd'hui, il y a beaucoup, pratiquement tous les projets, tous les pays d'Europe de l'Est sont intéressés par acheter des SMR. Et puis bien sûr, beaucoup, beaucoup de pays qui aujourd'hui ne sont pas dans le nucléaire parce que jusqu'à présent, ils n'envisageaient pas de le faire. C'était beaucoup trop haut. La marche à gravir était très importante pour eux. Et là, ils se disent, ouais, avec un petit réacteur, qui en plus peut être géré par une entreprise privée, mais ça devient beaucoup plus accessible. Je vais me doter d'une autorité de sûreté et je vais assez rapidement pouvoir atteindre la capacité à exploiter des réacteurs de petite dimension. Donc, beaucoup de pays émergents qui sont intéressés par ces technologies. Alors, le gros problème de ces réacteurs-là, c'est d'aller à l'encontre d'une idée qui a été l'idée dominante jusqu'à présent, de dire plus c'est gros, plus les frais fixes sont réduits par rapport au nombre de kilowatts émis, et donc le prix au kilowatt, jusqu'à présent, on pensait qu'il diminuait à chaque fois qu'on augmentait la puissance. C'est pour ça qu'on est parti dans les réacteurs de très grande dimension, les EPR par exemple, c'était un filo reçu. Donc là, on va à l'inverse de cette politique-là. Donc on devrait se situer, on devrait se situer dans une courbe où on met le coût au kilowatt et là la puissance, donc on est dans les petites puissances, on devrait se situer à des coûts très élevés. Le challenge ici, c'est de se dire, ben non, on va essayer de revenir dans des prix au kilowatt qui sont ceux des réacteurs de grosse puissance. Alors, comment on arrive à faire ça? Il faut voir que dans le nucléaire, le coût de la sûreté est extrêmement important. Et la sûreté, en fait, elle va être beaucoup plus facile à gérer quand le réacteur est très simple. Là, on est sur des technologies de réacteurs, vous allez le voir, qui sont très, très simples. C'est là qu'on va gagner. Donc, on va gagner sur tous les aspects de protection, les aspects sécurisation, et sur le fait que, du coup, on va avoir des technologies plus rustiques. On va jouer aussi sur la modularité. On va fabriquer beaucoup. Vous allez voir tout à l'heure, je vais donner des ordres de grandeur des marchés. On va avoir un effet de série qui n'existait pas vraiment dans les réacteurs de grande taille, même si on pense fabriquer quelques dizaines de PR. Là, on n'est pas sur quelques dizaines, on est sur des centaines de produits. Alors, je ne dis pas, on n'est pas dans l'automobile non plus, faut pas renverser le message. Mais quand même, l'effet de série va se sentir. Et puis cet aspect modulaire, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum d'installation sur site, de montage sur site, et donc d'aller essentiellement vers de la fabrication en usine. Et là, pour ceux qui ont vécu un petit peu ça dans leur vie professionnelle, on sait bien que moins de temps on passe sur site et moins ça coûte cher. Tout ça, on ne peut pas le faire avec les gros réacteurs, et c'est là qu'on va gagner, sur tous ces aspects-là. Et quand on fait le bilan, eh bien, c'est pas idiot de se dire on arriverait à faire des petits réacteurs dans des coûts au kilowatt qui finalement sont à peu près du même ordre de grandeur que ceux des gros réacteurs électrogènes. Quand je parle de coûts, c'est tout inclus, le coût, ce qu'on appelle le CAPEX, donc le coût d'investissement au départ, mais aussi le coût de maintenance, d'opération, d'exploitation. Oui, je vais y venir. Je la mets au frigo et vous me reposez la question si j'y réponds pas, mais c'est les planches d'après. D'ailleurs, vous le voyez là-dessus, ça c'est la vue générale de l'implantation de New World. Vous voyez la source froide, elle est là. Voilà. Mais ça peut être autre chose, la source froide. Mais effectivement, il y a une source froide. Oui, alors le coût de démantèlement, alors il existe, on est dans un réacteur de génération 3, donc avec les mêmes sujets que les réacteurs actuels. Effectivement, les coûts interviennent. Là, par contre, plus par rapport à une référence qui est une centrale à charbon, si vous voulez. Mais quand on démantèle une centrale New World, quand on démantèle un gros réacteur, les coûts vont intervenir, vont être pris en compte, mais à peu près du même ordre de grandeur. Bon, il y a moins de surface. Vous voyez, les bâtiments, c'est plus simple. C'est plus petit, donc ça va coûter un tout petit peu moins cher sur New World, mais c'est pas ça qui fait le... Dans le comparatif, gros réacteur, petit réacteur, c'est pas ça qui coûte le plus, enfin, qui compte le plus. Le comparatif va être à peu près similaire. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Quand on parle de coût de démantèlement, c'est quand on compare le coût par rapport à d'autres énergies qui ne nécessitent pas forcément le démantèlement. Quoique, quand vous démantelez une centrale à charbon, c'est pas gratuit non plus. Mais on sait bien que ce n'est pas le même ordre de grandeur. Puis il y a le coût des déchets aussi. Il y a des déchets, il y a toujours des déchets. Vous vous êtes posé la question de l'eau, mais souvent on me pose la question, est-ce qu'il y a toujours des déchets? Ben oui, ce ne sont pas les générations 4, clairement. Il faut voir que ces réacteurs-là, ils sont faits pour durer, pour faire la transition avec les générations 4. C'est quand même ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur la technologie, ça peut paraître loin, 2030, mais vous avez vu, les autres, elles seront encore 30 ans après, au moins. Voilà, donc en fait, le segment qu'on a défini, alors ça c'est vraiment un choix industriel d'EDF sur le produit New World. Ce que je vous dis là, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ce n'est pas vrai pour d'autres industriels qui ont choisi d'autres segments. Voilà, après chacun s'adapte suivant ce qu'il souhaite. Nous, en fait, on est parti sur la tranche qui est ici, 300-400 mégawatts. En fait, on sent... Pourquoi on dit ça? Parce que vous voyez, on parle de milliers de tranches à démanteler aujourd'hui. Les tranches, là, ce sont les tranches de réacteurs de centrales à charbon qui, un jour ou l'autre, du fait de la COP21 et de la réduction des effets de serre, les gaz à effet de serre, devront être démantelés. Vous voyez aussi qu'aujourd'hui, 30% de ces 2500 ont plus de 40 ans. Voilà, c'est 40 ans, c'est quand même beaucoup pour une centrale à charbon. Bon, elles peuvent durer plus longtemps, évidemment, mais voilà, on sait que le parc est vieillissant. Donc, il y a un marché qui est considérable, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure venant de la IEA, il y a un peu de la place pour tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas une vraie concurrence entre marchés. Il y a plus de la concurrence entre le nucléaire et les autres sources d'énergie qu'entre les concurrents industriels qui vont fabriquer des produits SMR. Donc un vrai besoin important. Tout le monde n'arrivera pas à gérer ça. Donc, si on résume, là, j'ai commencé à rentrer, j'ai une approche jusqu'à présent qui était assez générale sur les SMR, j'ai ciblé un peu sur le marché, sur les clients potentiels, enfin, ou les pays potentiellement clients, plutôt. J'ai commencé petit à petit me rapprocher du projet New World dont nous faisons partie et sur lequel enfin, c'est quand même l'essentiel de la présentation. Donc en fait, on est sur une puissance, comme je le disais tout à l'heure, qui est de production de 340 MW électrique. Donc en fait, ça veut dire que le réacteur lui-même est plus puissant que ça, parce qu'il fabrique, je rappelle qu'un réacteur, ça ne fabrique pas spontanément de l'électricité. Un réacteur, ça chauffe de l'eau. Ça chauffe, c'est tout. Un réacteur nucléaire, il chauffe de l'eau. Cette eau, on la porte jusqu'à ébullition, jusqu'en fait de la vapeur, et c'est la vapeur qu'on envoie dans une turbine, un alternateur, et qui va générer l'électricité. Donc en fait, aujourd'hui, compte tenu des pertes, des rendements de chacun de ces étages qui vont conduire à des étages technologiques, hein, qui vont conduire à faire l'électricité, ben, en fait, on a besoin de 540 mégawatts thermiques pour arriver à faire les 340 électriques. Voilà. Donc on utilise de l'uranium civil, exportable dans le monde entier. Donc on est dans les 5% d'enrichissement qui sont les 5% autorisés pour avoir une commercialisation très, très aisée de ces réacteurs. Il était évident qu'on ne va pas pouvoir faire de la prolifération avec un réacteur que l'on veut vendre à l'international. On est donc dans un design modulaire, on va y revenir. Sûreté passive, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était l'idée de dire on est 3 jours d'autonomie sans aucune intervention. C'est ça la sûreté passive, c'est-à-dire que le réacteur est autonome dans son fonctionnement, même s'il n'y a plus de refroidissement, même s'il n'y a plus de pompe pour le refroidir. On va y venir aussi. On a aussi intégré dans New World quelque chose qui est un peu particulier à notre projet français, c'est de dire... Quand on va construire un réacteur en Europe de l'Est, si on veut qu'il soit intégré, accepté par les populations locales, il ne va sûrement pas avoir le même design que quand on va l'installer en Namibie, ou en Asie du Sud-Est, ou tout simplement en France. Quelque part, ça ne peut pas être la même chose. En Europe de l'Est, on va mettre à la place d'une centrale à charbon. Dans des villes dans lesquelles il y a un passé fort de cette centrale à charbon, puisque les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères ont travaillé dans cette usine-là, et donc il y a un attachement extrêmement fort à l'implantation, au bâtiment qui existe déjà, qui relève de l'histoire du pays. Et donc on va se dire, bon, on va mettre New World dans un style qui rappelle, on va conserver peut-être la centrale, les bâtiments de la centrale, on va s'intégrer dedans, et on va rappeler le style. En Namibie, bien sûr, on va avoir un style complètement différent, plus intégré au paysage. En Europe, on va se dire, il faut que ça soit entouré, non plus de barbelés parce que ou de grillages, parce que c'est plus dans l'air du temps. Donc on va intégrer ça au paysage. Et puis on va apporter des services aussi à côté, parce que construire une centrale nucléaire permet d'apporter des services localement pour les personnes. Vous voyez qu'en fait, on va se poser cette question-là, de savoir comment on s'intègre dans le territoire de façon plus importante, peut-être que nos concurrents américains, en tout cas, tels qu'ils l'imaginent aujourd'hui. C'est aussi une marque de fabrique de notre produit. On va avoir donc aussi une cible de réalisation qui va être de faire un premier béton en France en 2030. Ça veut dire que, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les concurrents, eux, ils seront déjà dans une phase de commercialisation s'ils suivent leur feuille de route, hein, et notamment NuScale aux États-Unis. Aura déjà, normalement, à cette échéance-là, construit son premier réacteur, ce qu'on appelle divergé. Son premier réacteur, il sera en production. Ça veut dire qu'on a un certain retard par rapport à ça. C'est pas grave, on l'assume complètement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, d'abord, il n'y a pas forcément une grande compétition entre les produits, mais en plus, on pense qu'on a un produit qui est largement supérieur dans le rapport performance-coût, dont je parlais tout à l'heure. Donc on est largement supérieur à nos concurrents. Donc c'est pas grave si on arrive en retard. Le principal, c'est d'avoir le meilleur produit. Je prends un exemple, l'analogie avec l'automobile. Les Peugeot, les Renault, ce n'est pas les premiers. De Dion-Bouton, on ne les voit plus. Hein. Ça n'existe plus, les voitures de Dion-Bouton. Voilà. C'est pour vous montrer l'analogie. Nous, ce qu'on cherche, c'est le meilleur produit. J'en ai pas parlé, mais ces projets, ces petits réacteurs, ils permettent aussi de faire autre chose. Typiquement, on parle beaucoup de production d'hydrogène. On parle beaucoup de désalinisation. C'est vrai que ces produits-là pourraient le faire, peuvent le faire. Alors, ça va dépendre des technologies. Newarm n'est pas. On parle beaucoup de production d'hydrogène. C'est-à-dire, demain, les voitures, vous savez, hein, il y a de fortes chances qu'elles roulent à l'hydrogène. Newarm n'est pas forcément bien adapté. Dans la panoplie donc, que je vous ai présentée, le camembert que je vous ai présenté, des panoplies de technologies, il y a les technologies haute température qui sont mieux adaptées pour ça. Newarm pourra le faire, un peu au détriment de la production d'électricité. Donc il faut qu'on peut que le client choisisse son combat. Est-ce qu'il veut vraiment produire énormément d'électricité, que de l'électricité, et avoir un coût faible, ou est-ce qu'il veut produire autre chose à côté, typiquement de l'hydrogène, faire de la désalinisation, et dans ce cas-là, il va perdre un peu en efficacité de la production d'électricité, et donc devoir réorienter un petit peu sa production. Hein, donc, et ça, c'est un choix qu'il va faire, le client. Peut-être qu'il ne choisira pas New World, parce qu'on ne sera peut-être pas les meilleurs sur ce sujet-là. Mais malgré tout, ce sera possible. Et comme c'est très à la mode, j'en parle aussi. Voilà, je vais juste passer un tout petit film qu'a préparé EDF, hein, mais bien sûr, alors si ça veut partir, non, ça ne veut pas partir, je vais le faire d'ici. Ça y est. Ce petit film présente Newarm, donc le produit en lui-même. De l'implantation. Avec les différents bâtiments, au centre, vous avez donc, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou c'est trop petit, donc le bâtiment réacteur. J'en ai pas parlé, ce sont deux réacteurs en fait, hein, qui sont couplés l'un à l'autre, chacun faisant la moitié de la puissance, la totalité fait les 300 MW dont j'ai parlé, et une piscine de stockage intermédiaire. Qui va permettre aussi de faire la maintenance, hein, donc, puisqu'on va décharger le combustible régulièrement et on va pouvoir le stocker dans la zone intermédiaire. Les piscines, vous voyez que le réacteur est complètement immergé, et les piscines servent aussi au refroidissement, en cas d'incident justement, dans la phase au bout des 3 jours dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un petit sous-marin que l'on fait. Le réacteur lui-même est dans une enveloppe immergée, le cœur du réacteur est ici, dans cette partie dorée là. Il a tout un certain système de composants annexes dont on parlera tout à l'heure, et le tout est enveloppé dans une enveloppe, dans une enceinte en acier qui elle-même est immergée. Donc là, tous les systèmes de refroidissement, notamment refroidissement en cas d'incident, les pompes, là on est vraiment parti sur le réacteur lui-même, donc avec des pompes périphériques immergées, à rotor immergé, et j'en parlerai tout à l'heure, un système de refroidissement du réacteur qui est complètement intégré, comme on le fait dans les sous-marins de propulsion nucléaire ou dans, les réacteurs du porte-avions Charles de Gaulle. Ça, c'est les technologies de Technicatom bien spécifiques à terme. On va revenir un petit peu dans le détail, pas forcément de l'ensemble des bâtiments, hein, parce qu'en fait, c'est pas le but, mais tout au moins, voilà, on va rentrer un petit peu plus en détail de la technique. Pour ceux qui sont intéressés à la technique, on va parler un peu réacteur. Donc le principe, comme c'est indiqué là, je vous l'ai montré, donc deux réacteurs couplés, une piscine d'entreposage au milieu, le système est complètement immergé. Quel est l'avantage de cette façon de procéder? Tout simplement, quand on va, si jamais un jour on a un incident grave, évidemment on va tout arrêter, les pompes, supposons que les pompes s'arrêtent, puisqu'en fait on essaie de ne pas en arriver là, mais ça peut arriver, c'est ce qui s'est passé à Fukushima. On est dans des réacteurs qui sont maintenant insensibles à ces effets-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un système de refroidissement secondaire qui va se mettre en route par thermosiphon, hein, tout simplement. On est en refroidissement, en convection naturelle, refroidissement autonome, plus besoin de pompe. Et on va échanger la chaleur avec, tout simplement, l'eau de la piscine. Donc, on va refroidir par l'eau de la piscine. Et cette piscine va monter petit à petit en température pendant les 3 jours. Et même au bout d'un moment, elle va se mettre à bouillir. Pas grave, c'est prévu comme ça. Et quand l'eau bout, vous savez qu'en fait, ça permet de refroidir beaucoup. Hein. Donc du coup, on va avoir un système, on va pouvoir perdre en hauteur, là, elle va s'évaporer, donc ça va partir, mais on va rester. Alors, ça s'évapore, mais vous êtes bien conscient qu'on n'a pas mis d'éléments radioactifs dans cette eau. Hein. Il y a toujours étanchéité entre la cuve, qui est le circuit primaire, et l'enceinte extérieure, là, il y a étanchéité, il n'y a pas de communication du tout des radioéléments. Donc on est à un très haut niveau de sûreté là-dessus. Et donc cette eau qui s'évapore va refroidir l'enceinte extérieure et la cuve, il va faire en sorte qu'on va garder le fonctionnement nominal pendant quelques temps, pendant 3 jours. Bon, au bout de 3 jours, il faut quand même remettre de l'eau dans la piscine, parce que là, quand même, au bout d'un moment, ça devient impossible de tenir sur le long terme. Mais 3 jours, c'est très très long, c'est largement suffisant. Pour qu'on puisse venir avec... Alors, il y a des systèmes qui permettent de le faire rapidement. Hein. On vient avec les camions de pompiers et puis on remplit l'eau. Voilà, donc en fait, ce réacteur, si on regarde un petit peu, donc tout à l'heure, je disais, c'est comme un sous-marin. C'est-à-dire qu'en fait, on a une enveloppe externe avec tous les systèmes auxiliaires. Au centre, on a le réacteur. Le réacteur est complètement rempli d'eau, le circuit primaire. Autour, c'est de l'air, enfin, c'est des zones où on peut accéder pour faire la maintenance, donc les personnes peuvent y venir, donc c'est sous air, et évidemment, à l'extérieur de la coque, là, cette coque grise, on est dans la piscine. Si on regarde à l'intérieur encore, là, on a le réacteur, la cuve du réacteur. C'est un réacteur qu'on appelle intégré, pourquoi? Parce que tout le circuit primaire, tout le circuit de refroidissement, donc monsieur, je réponds à votre question maintenant, donc c'est un circuit de refroidissement donc sous eau, par l'eau, qui reste à l'intérieur de cette zone-là. Ça, c'est les technologies qu'on a, donc, ce que je disais, sur les sous-marins et sur le porte-avions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu spécifique à la France, c'est qu'on est capable, on n'a plus besoin de sortir le circuit primaire pour ce qu'on appelle notamment le pressuriseur, pour ce qu'on appelle les échangeurs. On n'a plus besoin de les sortir, on le fait directement à l'intérieur de l'enceinte. Alors, comment on fait ça? Ah, pardon, une petite parenthèse. Justement, je vous parle des sous-marins, je vous parle du porte-avions. Ben, c'est le moment que je vous parle un petit peu de ce que fait Technicatom. Pourquoi c'est spécifique? On est les seuls à peu près au monde à développer ces genres de technologies, tout au moins avoir l'expérience de près de 50 ans de développement de ce type de réacteur. Ben, parce qu'en fait, on est une entreprise qui fabrique depuis cette époque-là les réacteurs pour les sous-marins d'attaque, pour les sous-marins lanceurs d'engins, pour le porte-avions Charles de Gaulle, et bientôt, on va avoir un nouveau porte-avions. Hein, vous avez entendu l'annonce par M. Macron il y a déjà pas mal de temps, dans lequel la chaufferie du prochain porte-avions sera nucléaire, et donc Technicatom, évidemment, travaille déjà sur ce sujet-là. Technicatom ne fait pas... C'est notre cœur de métier, je veux dire, c'est la propulsion, ce qu'on appelle la propulsion navale, propulsion des bateaux. Mais on a toujours eu une activité nucléaire civile, dont j'ai la charge, qui fait aussi des réacteurs, notamment des réacteurs de recherche, et puis donc avec New World, des réacteurs de production d'électricité. Donc on est implanté, Technique Atome, un petit peu partout en France. Alors on a une grosse activité dans le sud-est, sur Aix-en-Provence et sur Cadarache. Notre siège est à Saclay. Et puis on est là où en fait les bateaux viennent au port, donc à Toulon, à Brest, à Brest ici, pardon, à Cherbourg, et la construction du module chaufferie se fait, l'intégration se fait à Indrette, à côté de Nantes. Et donc on a aussi des personnes qui sont, alors c'est essentiellement chez Naval Group, donc des personnes de Technique Atome sont sur le site de Naval Group. On a aussi une implantation autour de Bordeaux, tout simplement parce que historiquement nous sommes partenaires du CEA sur le laser mégajoule. Et donc voilà, on a une équipe bordelaise qui est là-bas depuis plusieurs années. Et puis nous avons une filiale, Arcis, qui fait des composants durcis pour toute la propulsion navale, qui est implantée à Toulouse. Notre actionnariat, on est une entreprise détenue par l'État, l'APE, qui a plus de 50% de notre actionnariat, et le reste est divisé entre Naval Group et CEA essentiellement, et une petite partie EDF. Donc on est une entreprise essentiellement d'État, tout simplement parce qu'on travaille pour la marine française, pour des activités qui sont extrêmement sensibles, qui ne pourraient pas bien sûr être détenues par des entreprises, alors déjà privées c'est une chose, mais en plus étrangères, ça ne serait pas gérable. Voilà. On fait à peu près 450 millions de chiffre d'affaires par an. Pour une entreprise de 1800 personnes, c'est pas mal quand même. On a on a plusieurs années devant nous. On a près de 7 ans de charge pleine chez Technique Atome devant nous, ce qui est aussi une entreprise un peu particulière dans le paysage actuel. Forte croissance aussi, on fait une croissance de 100 personnes nettes par an. Là, c'est les chiffres 2021. L'année prochaine, on sera 1900. On essaie de voir si on peut aller plus loin. On est limité tout simplement par notre capacité à intégrer de nouvelles ressources et les former surtout à nos métiers. L'entreprise qui va plutôt bien, donc. Voilà, donc nos grands programmes, donc tout ce qui est en propulsion nucléaire, donc pour le bien des bateaux. Vous voyez un exemple là, c'est le programme qui est en cours, mais qui est quasiment en train de se finir, puisqu'on est en train de construire les bateaux, c'est le programme Barracuda, dernière génération des sous-marins d'attaque. Voilà, le Suffren vient de prendre la mer, est opérationnel. On est sur le Duguay-Trouin qui est le suivant. Et puis les autres bateaux suivent. On a six bateaux à construire pour la marine. Donc un est à la mer, les autres sont en essai ou en fabrication. Le porte-avions Charles de Gaulle, c'est terminé maintenant, mais régulièrement, il y a les opérations de chargement, déchargement de combustible. C'est nous qui faisons ces opérations-là. On fait aussi le combustible, c'est-à-dire qu'on intègre toute la chaîne depuis la fabrication du combustible, la construction des centrales neuves, jusqu'à l'exploitation, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle de la chaufferie pour le compte de la marine. On a toute la chaîne. Les nouveaux programmes, donc la nouvelle génération des sous-marins lanceurs d'engins, ceux qui portent les armes tactiques, et puis le nouveau porte-avions. Donc ça, c'est pour les 10 prochaines années. Dans les projets civils, donc on travaille sur le réacteur Jules Horowitz, donc là en coopération avec le CEA, donc même en coopération très très forte, on a une équipe intégrée avec le CEA sur ce sujet. J'ai parlé de Newhart, je vais passer à d'autres activités, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le laser mégajoule. On travaille aussi pour les infrastructures de défense et les infrastructures portuaires pour le compte de la Direction Générale à l'Armement. Allez, un petit film de réclame. C'est en anglais, pardon.
Commissioning and operational maintenance of compact nuclear reactors. The company has over 1,600 employees working in the fields of naval propulsion, research and energy. Its activities in the civil nuclear domain focus on three main areas: research reactors, support to power reactors, and SMR, Small Modular Reactor, development. Technicatom has developed expertise in research reactors and has been involved in major national and international programs. Its expertise covering all areas of nuclear engineering enables Technicatom to offer a wide range of services. Engineering of new builds, renovation and optimization of the installed base, upgrade of instrumentation and control systems, fuel studies, safety reassessments, expertise services and assistance to contracting authorities and project management. The experience acquired by Technicatom is today made available to the Jules Horowitz reactor project, being built on the Cadarache site. This is a unique project in Europe for which Technicatom is the prime contractor and supplier of the reactor, leading edge engineering services for a 21st century research reactor. Technicatom offers targeted engineering services with high added value for nuclear power reactors. In the field of instrumentation and control, Technicatom provides a range of solutions based on both analog and digital platforms developed with its subsidiary, Arcis. A recent example, the new Unicorn Analog I&C platform, the first installation of which is in progress for the Hinkley Point C EPR project in the United Kingdom. With its experience in compact nuclear reactors, Technicatom is innovating through the design of a small modular reactor, SMR, in partnership with CEA, EDF and Naval Group. Owing to its particularly compact and modular design, this reactor will provide numerous advantages. Easier to manufacture than large reactors, less expensive, flexible to operate. Its low power allows for an intrinsically safe design and facilitates integration into electrical networks. This reactor will meet multiple needs. The supply of base or semi-base load electricity to the grid, accompanying the replacement of fossil fuels and supporting the deployment of renewable energies, and power supply to isolated sites. Technicatom, expertise in nuclear engineering of compact reactors, serving its customers and partners.
Une présentation très commerciale. Désolé pour le fait que ça soit en anglais. Excusez-moi, il y avait une question. Oui, il marche déjà en Chine. Hein. Enfin, il essaye de marcher en Chine, mais il devrait marcher. Du prix de l'électricité, vous voulez dire ? La demande. Oui, il y a eu un rapport d'ailleurs de RTE. Alors, il était bien sûr plus orienté sur la France, où il disait que il faut plusieurs EPR. Pas que 6 d'ailleurs, ça allait beaucoup plus loin. Et il faut les SMR aussi. Parce que malgré tout, même si le produit n'est pas fait pour la France, il y a quand même des zones en France où le réseau ne permet pas de mettre des réacteurs EPR. Parce qu'en fait, réacteur EPR, il faut construire un réseau adapté hein, quand même pour évacuer la puissance. Et donc, voilà, il y a des zones en France où ça ne serait pas économiquement raisonnable. De vouloir l'alimenter par un EPR. Donc les SMR peuvent aussi avoir un intérêt, même si le produit n'a pas été développé pour ce marché-là, malgré tout, pourquoi pas s'en priver. Enfin, il ne faut pas s'en priver. Donc la demande aujourd'hui, elle est très forte, effectivement très très forte, hein, donc en France. Sur le marché, comme je le disais tout à l'heure, sur le marché mondial, hein, pour répondre plus à votre question, là, ça va être une explosion. En France, on ne s'en rend pas très bien compte, je crois que dans l'opinion publique, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron qui a fait que tous les journalistes, c'est pour ça que je parlais de la sphère des médias, s'est intéressé à ce sujet-là. Mais enfin, nous, qui sommes un petit peu plus dedans dans la vie de tous les jours, ça fait 10 ans que le sujet il est abordé. 10 ans qu'en fait, dans le monde entier, on sent que ce sujet-là arrive. Il n'est pas... l'intérêt n'est pas arrivé comme ça en 2021, évidemment. Hein, donc on sent que c'est juste que depuis 2 ans, le Canada a lancé des appels d'offres. Ça change tout. Il a lancé des appels d'offres en disant « Qui peut me construire le premier réacteur SMR au monde ?» Les Russes ont dit, mais nous, c'est pas le premier, parce que nous, on a déjà fabriqué sur des barges. Ils ont fabriqué un réacteur expérimental qui existe aujourd'hui, qui a divergé, qui a le mérite d'exister vraiment. Bon, il est de petite dimension, hein, il est plus petit, il ferait pas ce que fait New World. Néanmoins, ils ont raison, ça existe. Les Chinois sont sur le point d'en faire un. Donc, du coup, les pays européens, de l'Est européen, se sont dit, nous aussi, on veut montrer notre intérêt sur ça. On veut être dans les premiers à en avoir. C'est important parce qu'on sait très bien que le premier pays qui va l'acheter très cher. Il va acheter une partie du développement avec. Et ça, un pays qui est prêt à payer pour ça, qui fait un appel d'offres en disant « dites-moi ce que vous pouvez me proposer », c'est unique. Donc, voilà. Voilà pourquoi le sujet, tout d'un coup, il apparaît et que cet appel d'offres du Canada, il a décoincé plein de choses et qu'on en parle vraiment maintenant partout. En France, on a été un petit peu long à la détente. Hein. D'ailleurs, pour ça aussi qu'on a pris beaucoup de retard. Chez Technicatome et au CEA, ça fait 10 ans qu'on travaille vraiment sur ces sujets-là. EDF a réagi un tout petit peu tard. C'est pas grave. Moi, je considère que c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça que le sujet existe et le marché existe, vraiment. Ben, avec les clims, oui. Alors, soyons pas dupes non plus, le milieu industriel est quand même un très fort demandeur. Et en fait, toutes ces projections, elles sont avec un parc automobile à moteur thermique. Parce que quand on dit on va passer voiture électrique, c'est sympa, mais on la produit comment, l'électricité? Si on la produit avec des centrales à charbon, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Je vous en prie. J'y arrive. Ah, vous faites une super transition avec la suite. Allons-y. Parce que, voilà, l'innovation, elle est essentiellement sur le réacteur, sur la partie turbine, sur la partie production d'électricité, vraiment. Voilà. Peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui vont innover, mais c'est sur la production, le réacteur qu'on va trouver l'essentiel des innovations. Donc c'est sûr, pour ça que je fais un focus. Et puis en plus, c'est ce que fait mon entreprise, donc c'est ce que je connais le mieux personnellement. Voilà, donc on va faire un focus là-dessus. Donc cette chaudière, on l'appelle I-54. Pourquoi I? Parce que c'est une chaudière intégrée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est dans l'enceinte, tout est dans la cuve, tout le circuit primaire est dans la cuve. Et puis 54, tout simplement, c'est 540 MW thermique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça. Donc en fait, pardon, excusez-moi. On est comparé à, pour ceux qui connaissent un petit peu les réacteurs, les REP, usuellement, ça c'est quelque chose qui est nouveau, que vous connaissez peut-être moins bien. Pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent les réacteurs de propulsion nucléaire, en fait c'est très similaire. C'est-à-dire qu'en fait vous avez le cœur du réacteur qui est ici, donc on fait circuler l'eau comme ça, elle monte, elle chauffe, on passe dans cette partie où en fait tout simplement là c'est là qu'on a toutes les barres de commande. On a intégré tout ce qui est barre de commande, tout ce qui est régulation de la puissance qui est immergé dans le réacteur. Donc, ceux qui connaissent un peu les termes, j'utilise des termes un peu barbares, mais les CRDM sont immergés. On a au-dessus ce qu'on appelle le pressuriseur, qui permet, on est sur des réacteurs à eau pressurisée, donc on maintient une pression d'eau, tout ça, et on la régule par cette partie supérieure intégrée dans la cuve. Et ce qui est surtout impressionnant, parce qu'en fait, ça c'est vraiment les technologies nouvelles, développement nouveau, même si dans la propulsion nucléaire, propulsion navale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qui existent, mais pas comme ça exactement. On va avoir l'échangeur de vapeur qui est ici, qui est lui aussi dans la cuve. Et donc l'eau, là, elle va sortir, elle va être toujours à l'état liquide, mais surchauffée. On va générer de la vapeur par un échangeur, donc entre l'eau du circuit primaire et un circuit secondaire, Le circuit secondaire va faire de la vapeur, c'est cette vapeur qu'on va retrouver dans la turbine. Évidemment, on ne mélange pas le circuit primaire et le circuit secondaire. Enfin, ça peut paraître évident, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de contamination. Le circuit primaire, il a un certain niveau de contamination. Le circuit secondaire, il doit être exempt de contamination. Donc ça, on ne mélange absolument pas les deux. C'est cet échangeur de vapeur qui va faire la séparation entre les deux. Et donc, une fois qu'on a refroidi du coup l'eau, puisque quand elle passe dans l'échangeur, on fait de la vapeur d'un côté, mais d'un autre côté, on refroidit l'eau, elle va redescendre et elle va remonter pour reprendre un coup de chauffe dans le cœur. Hein, donc, le circuit de l'eau, il est comme ceci. Et ça, c'est pour le circuit primaire. Et pour le circuit secondaire, l'eau va arriver par ici, passer dans l'échangeur, se transformer en vapeur et ressortir pour aller vers la turbine. Voilà. En temps normal, en fonctionnement normal, on a donc 8 pompes qui vont assurer cette circulation d'eau. Si on a un très grave accident, on perd l'alimentation électrique des pompes, donc on va descendre les barres de contrôle, c'est-à-dire qu'on a des systèmes d'absorbants qui vont arrêter au plus vite la réaction nucléaire. On ne va donc plus produire massivement de la chaleur, ça va s'arrêter, mais vous savez que dans un réacteur nucléaire, certains d'entre vous savent que dans un réacteur nucléaire, la puissance, elle ne diminue pas, c'est pas on-off, ça descend très vite, et après, il y a ce qu'on appelle la puissance résiduelle, donc un certain niveau de puissance qui va continuer à être exercé. Ça, c'est la physique des choses qui font que ça se passe comme ça, on ne peut pas faire autrement, et qu'il faut donc continuer à enlever la chaleur, à évacuer la chaleur, et dans ce cas-là, on a un thermosiphon qui se met en route avec un certain nombre d'échangeurs dédiés, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Vous voyez que ils sont là, les échangeurs, ça c'est une coupe, donc ils sont, vous voyez, il y a 6 échangeurs qui servent en fonctionnement normal quand les pompes fonctionnent, il y en a 2 qui sont en marron, qui sont un peu spéciaux, c'est tout simplement des échangeurs qui fonctionnent lorsqu'on est en fonctionnement thermosiphon, en fonctionnement convection naturelle, donc c'est pas tout à fait le même circuit qui va être mis en route. Et donc on va avoir un échange cette fois avec un circuit de sauvegarde qui va aller se refroidir. Alors on ne va pas passer par le circuit secondaire là, parce que en fait, tout s'est arrêté, hein. On va tout simplement échanger avec l'eau de la piscine dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que ces deux échangeurs là font que l'eau de la piscine va servir de refroidissement au réacteur. On est sur des niveaux de puissance relativement faibles, mais quand même il faut arriver à l'évacuer. Et par contre, l'eau de la piscine va monter en température jusqu'à ébullition, hein, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc ça, on est sur un fonctionnement qui est très similaire à ce qu'on trouve sur les réacteurs de propulsion nucléaire. Bien sûr, il est hors de question que l'on exporte ou que l'on montre des technologies militaires à l'étranger. Donc ça veut dire qu'on l'a rendu complètement civil. Le combustible qu'on utilise, c'est un combustible tel qu'il est sur les 900 MW actuellement en opération. Le gros avantage, c'est qu'on a l'outil de production, on a les certifications dans le monde entier, deux fabricants au moins, Framatome, Westinghouse, voire d'autres, qui peuvent le produire. Donc on a toute l'industrie qui est armée pour faire le combustible. C'est vraiment le même assemblage qu'un 900 MW. Il est juste un tout petit peu plus court, ce qui ne change rien, mais enfin, c'est juste la taille, la hauteur qui change. La cuve, l'enceinte dans laquelle tout ça est enfermé, c'est une cuve de 900 MW aussi. C'est le même design. Ça veut dire que l'outil de production, il existe. C'est très important tout ça, parce que ça, ce sont des outils de production qui sont amortis, connus, maîtrisés, Framatome. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, ici, hein, pas très loin, c'est faire ces cuves-là. Donc, l'aspect coût, l'industrie française est très bien positionnée pour faire ces réacteurs-là. Alors, un petit peu adapté quand même, hein, parce qu'il faut mettre les piquages pour les pompes, ça n'existe pas dans les cuves de 900, il y a plein d'autres piquages, c'est pas grave, 90% c'est la même chose. Ça, j'en ai parlé. Un point particulier, c'est un réacteur qui est sans bord. Alors là, je vais m'adresser plutôt à ceux qui connaissent, hein, le monde des réacteurs dans les REP classiques, les réacteurs d'eau pressurisée classiques. Vous avez bien sûr du bord, qui est un modérateur, hein, qui est utilisé. Dans les propulsions navales, on a des réacteurs qui n'ont pas de bord. C'est un grand débat sur Newark. de dire est-ce qu'on continue. Ça présente d'énormes avantages de ne pas avoir de bord pour la maintenance, hein, pour tout simplement l'exploitation est simplifiée. Par contre, en cas d'incident, il faut savoir le gérer. Donc ça, c'est des technologies qu'on maîtrise parfaitement dans la propulsion navale. Aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr à 100% qu'on saura faire un réacteur de ce type-là avec un combustible civil, avec des technologies civiles sans bord. Malgré tout, on essaye, parce que si on sait le faire, on a vraiment gagné un coût énorme en maintenance. Donc on est vraiment à 90-95% confiant sur le fait d'y arriver. Et néanmoins, tout est prévu pour que si jamais, dans les phases ultérieures du développement, on n'arrive pas à le gérer, on pourra le rajouter, ça ne pose aucun problème. Voilà. Mais globalement, c'est aujourd'hui notre objectif est d'avoir un réacteur sans bord. Vous voyez, à chaque fois, j'ai marqué dans les innovations, ça répond un petit peu à votre question. Il y a beaucoup de choses qui sont des technologies éprouvées. Le cœur, c'est du cœur de combustible classique, la cuve, c'est connu. Tout ça, ce sont des éléments complètement maîtrisés par la propulsion navale. On a beaucoup de choses. La base du réacteur est éprouvée, connue, maîtrisée. On a malgré tout un certain nombre de choses qui sont innovantes et qui vont nous permettre de se placer en haut des performances par rapport à nos concurrents. Je vais y venir dans un instant. Juste pour vous donner une explication pourquoi on utilise des réacteurs intégrés, pourquoi on utilise ces réacteurs de propulsion navale. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une hauteur de réacteur extrêmement faible. Vous voyez, on loge dans moins de 20 mètres, alors que nos concurrents sont beaucoup plus hauts. Quel est l'avantage de ça? C'est que nous avons quand même un impératif de tenir à ce qu'on appelle une agression par chute d'avion, qui est l'agression presque la plus compliquée qu'on ait à gérer, malveillante, hein, une agression malveillante. D'attentats, hein, globalement, disons ça comme ça, et qui est la chute d'avion qui oblige à faire des sarcophages autour des réacteurs qui, maintenant, sont très compliqués à gérer. Hein, je veux dire, donc, l'idée, là, c'est d'enterrer toutes les fonctions de sûreté, tout ce qui est réacteur est enterré. L'enterrer, c'est le protéger. Et on va descendre à moins de 20 mètres. Alors, pourquoi on s'est donné cette contrainte de descendre à moins de 20 mètres? On parlait tout à l'heure de la source froide, refroidissement par l'eau. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la source froide, l'eau. C'est une rivière, c'est un lac, c'est la mer. Hein, pour Flamanville, c'est la mer. Ça veut dire que très loin, très près, on a une nappe phréatique. Descendre jusqu'à 20 mètres dans une nappe phréatique, les terrassiers savent faire, ça ne coûte pas cher. Descendre plus profond, ça commence à devenir très onéreux. Rappelez-vous, c'est toujours le coût qui est le driver de ce produit-là. On essaye de faire le coût le plus faible possible. Donc, évidemment, le terrassement fait partie des objectifs de coût. Et donc, c'est pour ça que nous avons un réacteur qui est le plus petit sur le marché, avec ce niveau de puissance, hein, et qu'on a un avantage considérable par rapport à la concurrence. Et ça nous vient vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des technologies de marine, hein, technologies de propulsion navale. C'est vraiment cette expérience-là qui nous permet d'avoir un réacteur très compact. Aujourd'hui, les Russes commencent à maîtriser ça. Ils ont eu la technologie dans le passé, les Américains aussi. Les Russes l'ont réactivé, ils ont été très efficaces. On commence à se demander si on les a pas un tout petit peu aidés, d'ailleurs, parce que, bon, l'espionnage, ça existe, hein, mais on commence à vraiment se poser des questions. Par contre, les Américains n'ont pas encore réactivé ces connaissances-là qu'ils avaient il y a quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui, les technologies qu'on voit sont assez loin de ces concepts-là. Donc on pense quand même avoir un avantage très concurrentiel sur le marché. Je continue donc sur les innovations dont je parlais. Innovation, donc, c'est ce refroidisseur, hein, donc le générateur de vapeur à plaque. Ça, c'est une technologie qui aujourd'hui n'existe pas. Même dans la propulsion navale, on n'utilise pas ce type de refroidissement. Parce qu'en fait, tout simplement, on utilisait des technologies plus conventionnelles. Et ça nous allait bien jusqu'à présent. Avec New World, on a innové. Pourquoi? Tout simplement pour rester avec un cœur civil qui a sa place, hein, ce cœur de 900, une cuve de 900, mais il ne reste pas beaucoup de place autour. Et donc, dans New World, on a été obligé d'avoir un générateur de vapeur à plaque très, très, très compact. Donc, on est parti sur une technologie générateur de vapeur à plaque très différente, bien sûr, de ce qu'on connaît dans les RAP actuels. Hein, vous savez, des technologies à tube. Et donc, voilà, c'est une innovation typiquement qui est développée là, qui pourra peut-être un jour être appliquée, d'ailleurs, à la propulsion navale, c'est-à-dire qu'il y a des échanges dans les deux sens. Hein, donc, le militaire et le civil, finalement, échangent les technologies assez facilement. Ce développement, voilà ce qu'on essaye de faire. Alors, faire des échangeurs à plaques, c'est des choses qui existent dans l'industrie classique, conventionnelle. Nous avons des contraintes un peu particulières qui font qu'on va être obligé de faire un échangeur à plaques en titane pour des questions de propriété mécanique à haute température. Et donc, on est en train de développer un système, enfin une industrialisation de ces échangeurs, notamment, vous voyez une coupe, hein, vous commencez, c'est des quantités de petits canaux. Les plus gros, c'est pour la vapeur, donc le circuit secondaire. Les plus petits, c'est pour le circuit primaire. Ils sont intercalés. Un circuit primaire, un circuit secondaire, un circuit primaire, un circuit secondaire, etc. etc., etc. Voilà. C'est comme ça qu'on fait l'échange. Ces petits canaux-là, il faut les construire les uns derrière les autres. C'est un procédé industriel assez complexe à maîtriser, qu'on est en train de développer en ce moment. C'est des travaux de recherche que l'on fait avec Naval Group et aussi avec les ateliers Chantiers de Bretagne. Donc là, c'est des innovations. Vraiment, cet appareil-là est quelque chose qui va être le produit le plus innovant de New World et du SMR français. On a un système passif, c'est quand même pas courant pour l'instant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de réacteurs électrogènes en France qui aient un système de refroidissement complètement passif. Donc je rappelle, hein, c'est pareil, 3 jours refroidissement avec la piscine en cas d'accident. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont en développement et pas forcément simples à gérer. On a le pressuriseur intégré ici, hein, donc ce que je disais tout à l'heure, la mise en pression du circuit, c'est pareil. Ça, c'est une innovation aussi, même par rapport à la propulsion navale. Le seul élément en propulsion navale qui ne soit pas intégré, c'est le pressuriseur. Donc voilà, aujourd'hui, on l'intègre aussi dans New World. C'est une évolution supplémentaire qui, évidemment, elle aussi pourra servir à la propulsion navale ensuite. Et puis, les mécanismes de commande immergée ne sont pas des choses forcément très simples à réaliser. Et voilà, pour un réacteur civil, je pense que c'est un peu innovant aussi. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Ah non, nous sommes industriels. Alors, nous, on en dépend complètement. Ouais. À nous, Technicatom, oui. Alors, nous sommes une société, effectivement, qui fabrique son combustible pour la propulsion navale, qui fait le MCO, qui fait le montage, qui est intégrateur, mais qui ne fabrique pas. Oui. Nous, c'est notre ADN, entre guillemets. On est surtout ingénieriste. Tout à fait. Mais là, typiquement, ce générateur de vapeur à plaques, il est prévu que ce soit Naval Group. C'est-à-dire qu'en fait, le groupement est construit pour que chacun ait son périmètre. Nous, on conçoit le réacteur, Naval Group fabrique les gros composants. Framatome ferait la cuve, typiquement. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un produit export. Qui dit export, dit que quand on sera à l'étranger, les pays qui vont nous acheter ça, ou les industries à l'étranger qui vont nous acheter à New World, ils vont vouloir avoir un retour local. C'est quand même des choses qui existent. Donc il faut qu'on s'apprête aussi à se dire, il y a certains composants qui devront être achetés localement. L'avantage de ce qu'a annoncé M. Macron, le président Macron, il a dit qu'il investissait 1 milliard, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, il investit 1 milliard sur l'SMR. Évidemment, il y a une bonne partie qui ira pour le projet New World, et ça va nous permettre de construire le premier de série en France. C'est ça quand même qui est important. C'est qu'on va construire le premier réacteur New World en France en 2030, donc comme je le disais tout à l'heure. Et ça veut dire que l'industrie française va pouvoir truster à peu près tous les composants majeurs. Et quand vous savez très bien, quand un industriel il l'a fait une fois, il a un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne l'ont jamais fait. Notamment pour dans le nucléaire, pour tout ce qui est qualification de composants. Donc il a des coûts qui ont été amortis sur le premier, qu'il n'aura pas à repayer sur le deuxième. Donc voilà, c'est important que l'industrie française profite de ce premier de série pour mettre au point ses objets, ses procédés, mettre au point aussi les qualifications qui vont avec. Voilà. Les pompes, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec Clyde, qui n'est pas forcément français, mais aussi avec Jeumont, qui qui lui peut être le fournisseur de ces pompes-là. Mais c'est vrai qu'on est, enfin, c'est un groupement d'industriels. On est clairement industriel. Enfin, même EDF, là, peut-être entreprise d'État, exploitant, certes, mais là, il se positionne vraiment comme l'industriel, avec une démarche typiquement d'un investissement qui doit être rentabilisé dans le futur. Alors, c'est vrai que j'ai pas prévu de parler, je peux pas parler de tout. Déjà, la présentation était un petit peu longue. C'est vrai. Oui et non. En fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement dans les réacteurs de propulsion navale. Globalement, en fait, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà. En fait, on est obligé d'en retirer pas mal d'internes, pas mal de composants. C'est-à-dire qu'on ouvre par-dessus ici, et puis, effectivement, on accède au combustible. C'est vrai, c'est pas forcément beaucoup plus simple. C'est pas simple. Par rapport à un REP actuel. Oui, alors par contre, en fait, on a, c'est vrai que c'est guère plus long. Enfin, ça fait partie des objectifs, donc de respecter à peu près le même, ce qu'on appelle le nombre de journées opérationnelles, le GPP. Donc c'est vrai qu'on essaye de rester dans les mêmes standards qu'un réacteur REP actuel. Tout simplement parce que sinon on perd en rentabilité très vite. Le PEX il évolue très vite. Et j'en ai pas parlé dans une vue peut-être comme ceci, excusez-moi, j'arrive plus à voir la vue, on les voit tous les deux. Voilà, les deux réacteurs ici, ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait il y a une zone SAS ici. Vous voyez peut-être ce qui est en bleu clair. Là on est en fonctionnement normal, là on est en maintenance, c'est-à-dire qu'en fait cette zone bleu clair ici, elle peut être vidée pour faire toute la maintenance et changer le combustible. C'est une zone qui peut être mise en air pour accéder au sommet du réacteur et pouvoir faire le changement de combustible en air libre. Et évidemment après le mettre dans la piscine, le stocker. Voilà. Voilà, je vais passer parce que je vois le temps qui tourne. L'aspect modulaire, j'en ai pas trop parlé. L'idée, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer, faire le maximum de choses en usine. Donc très peu de fabrication sur site. La cuve ici, ça arrive livré en un seul morceau. Ce qu'on ne mettra pas dedans sont les internes, c'est transporter la cuve avec ses internes à l'intérieur, c'est un tout petit peu difficile d'assurer l'intégrité de tout ça, donc on aura les internes qui seront quand même à part, mais autrement, la cuve arrive en un seul morceau, et derrière, toutes les servitudes qui sont autour, ce sont des blocs, des segments, qui seront prémontés en usine et facilement assemblés sur site. Pareil, l'enceinte métallique, vu ses dimensions, elle ne peut pas être livrée en un seul morceau, ça c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand. On est sur 20 mètres par 20 mètres, hein, à peu près. Hein. Donc, mais par contre, ce sont des modules qui seront préfabriqués et assemblés, soudés sur site. Pareil sur, les aspects béton, génie civil, donc on est sur des procédés que maîtrise très bien Westinghouse, qui sont des procédés d'intégration de systèmes préfabriqués, de modules préfabriqués de béton et métallique, des armatures métalliques, avec une partie d'ailleurs des servitudes à coller avec. Tout ça, ça semble comme un petit peu du Lego pour fabriquer le bâtiment. Donc tout ça sont des technologies qui ne sont pas forcément super innovantes, néanmoins pas forcément conventionnelles non plus, en tout cas pas utilisées dans les EPR. Et donc là-dessus, du coup, l'industrie française du nucléaire va faire des bons hein, de productivité assez importants via ce projet-là. Parce que, bien sûr, tout ça peut être appliqué après à d'autres projets de réacteurs plus gros. Pour terminer, j'arrive au bout, donc c'est tout simplement la démarche. Hein, donc aujourd'hui, là, c'est pour donner une espèce d'échelle de temps du développement du projet. Donc on sait, comme je vous le disais, ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, dans lequel on essaie de montrer la faisabilité, notamment de tous les composants innovants dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque c'est ça qui est le plus dramatique. Finalement, si on n'arrive pas à résoudre nos problèmes technologiques sur ces composants innovants, ça veut dire qu'on va remettre en cause fondamentalement la conception du réacteur. Donc il faut qu'on arrive à dérisquer ça. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné jusqu'à la fin de l'année prochaine. Une fois qu'on aura montré la faisabilité de tous ces composants innovants, on sait que tout le reste, c'est des technologies conventionnelles, classiques, ça ne va pas poser de problème. Donc on déroulera ce qu'on appelle l'avant-projet détaillé, qui va nous permettre de lancer derrière le licensing, hein, donc l'aspect qualification auprès de l'autorité de sûreté, de tout ça, et de se projeter dans un premier béton qui serait en 2030, c'est ça l'objectif, premier béton en 2030, pour un démonstrateur qui du coup sera en France. Alors le « en France », c'est depuis pas longtemps du fait de l'annonce du président Macron, mais voilà, donc c'est bien notre objectif. Voilà, donc en fait aujourd'hui, le projet, comme vous l'avez vu, il est quand même assez franco-français. On a quand même un objectif dans le futur de s'ouvrir à l'Europe, d'abord parce que la force de frappe de l'Europe, elle est quand même beaucoup plus importante dans une commercialisation d'un produit à l'international, en plus parce qu'il y a quand même un certain nombre de composants où il faut être bisource, il faut avoir une certaine capacité à produire. On va quand même produire quelques réacteurs par an, donc la production derrière, il faut qu'elle suive, et pas forcément que avec des industriels français, parce que tout simplement ils n'auront pas la capacité forcément d'assurer l'approvisionnement avec les cadences qu'on voudrait. Ils ont aussi un autre business, la plupart d'entre eux, qui est aussi récurrent. Donc on sait que bon, en plus il y a des EPR à fabriquer, enfin voilà, la filière française va être un peu en surchauffe, donc du coup on regarde aussi la capacité à aller chercher à l'étranger d'autres industriels. Là, on est vraiment sur la partie industrielle, pas trop sur la partie conception. Et voilà. J'ai fini. Merci. Vous voulez dire au point de vue des mines ? Oh, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout là-dedans, moi. C'est pas du tout mon secteur. Peut-être dans l'assistance, il y a quelqu'un qui sait. Quel est le pays qui fournit le plus d'uranium dans le monde, où les mines sont les plus importantes?
Mais à quel niveau? Au niveau des mines?
Les mines?
Il y a l'Australie, il y a le Congo, il y a le Canada, il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'uranium, il y en a partout. Le problème, c'est le problème du taux du minerai. Si vous voulez.
Ouais, aujourd'hui, il y a au Kazakhstan, il y a des mines au Kazakhstan qui sont capables de. Voilà. Il y a une réserve qui est monstrueuse. Monstrueuse. Voilà. Hein, donc, en fait, avant qu'on ait un problème d'approvisionnement d'uranium, comme on peut l'avoir sur le pétrole, un jour on l'aura sur le pétrole, hein, on croyait qu'on était au bout des réserves, vous rappelez-vous, on vous disait ça. Il y a 10 ans, on est au bout des réserves. Bon, c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de réserves. Mais voilà, l'uranium, c'est pour l'instant, on a des années. J'espère qu'on aura trouvé une autre solution technologique d'ici à ce qu'on ait épuisé les mines d'uranium. Oui, bien sûr. Non seulement on en a une idée, mais on le suit. De façon très précise, parce que rappelez-vous, notre objectif, c'est le coût au kilowatt. Alors, je ne peux pas le dire, parce que c'est quand même un tout petit peu confidentiel par rapport à nos concurrents, je pense que vous comprendrez. Enfin, sachez que l'objectif du coût au kilowatt, c'est le même que celui qui est livré par un EPR. Donc, en fait, on veut être vraiment dans le marché de dire, finalement, il n'y a pas d'effet de technologie du fait qu'on ait un réacteur plus petit. Ce n'est pas ça qui va dimensionner le coût au kilowatt. On essaye d'être dans cet objectif-là. Et donc évidemment c'est quelque chose qu'on suit, mais même depuis quelques temps hein, déjà, et on regarde à chaque fois qu'on modifie quelque chose dans la conception, quel est l'impact sur le coût tout de suite, quel est l'impact sur le coût, et si jamais ça augmente, des fois ça diminue, mais si ça augmente, comment on le ramène le coût dans le bon niveau. Alors ça, je ne peux pas trop répondre, c'est EDF, hein, qui est, très honnêtement, c'est EDF qui finance le projet. Je ne pourrais pas vraiment répondre à leur place. Ce que je peux vous dire, c'est que l'intention d'EDF, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment une idée, quand ils ont pris la décision, à moins que la faisabilité Encore une fois, on a des faisabilités à montrer. Donc fin 2022, j'en ai parlé, hein, ça sera quand même une étape très importante pour nous. Mais l'idée d'EDF, c'est d'investir, investir, investir. Ils sont très, très conscients du nombre de millions, dizaines, centaines de millions d'euros que ça va nécessiter pour EDF. Donc ça, ils ont pris la décision d'y aller. Après, il y avait la question, où sera le premier de série? C'est sûr que si vous avez un client au Canada, par exemple, pour ne pas le nommer, qui dit, mais moi je suis prêt à vous en payer une bonne partie. Comprenez, hein? Ben, faut se mettre à la place de l'industriel qui dit, ben, plutôt que si je peux faire payer à mon client une partie du coût du premier de série, c'est quand même intéressant, hein? On va y réfléchir deux fois. Là, je pense que ce qu'a dit le président Macron, c'est déclencheur pour que ce premier de série soit en France. C'est là où on a eu un déclic chez nous de dire, ça y est, premier de série, c'est en France. Parce que je suis responsable du fait que la chaudière, elle tourne et qu'elle se donne les bonnes performances. Je peux vous dire, je préfère que mes équipes travaillent sur un premier de série, peu importe où il est en France, mais qui est en France, plutôt que d'aller à l'étranger. Avec tout ce que ça veut dire comme complexité pour mettre au point, pour qualifier, pour ça va pas se passer comme on voulait. Voilà, c'est vraiment un soulagement de se dire, oui, le milliard, il est vraiment déclencheur du premier de série en France. Même s'il ne couvre pas tout, c'est clair. Alors, nous, on ne va pas trop pouvoir gérer. Ce n'est pas, effectivement, comme on disait tout à l'heure, nous, on est industriel. Ça va être un frein à la commercialisation. Alors ça, par contre, l'AIEA en a parfaitement conscience. Il y avait un salon WNE ces jours derniers, où, en fait, ça a été vraiment une demande extrêmement forte de l'AIEA de dire il faut arrêter de travailler en silo pays par pays, comme ça s'est fait jusqu'à présent. Regardez dans l'aéronautique, il a pris l'exemple de l'aéronautique. Quand il y a un accident sur un avion aujourd'hui, ou quand il y a une certification d'avion, pardon, quand je peux plutôt raisonner comme ça, la certification d'un Airbus, elle est faite en France. Elle est valable dans le monde entier. La certification d'un Boeing, elle est faite aux États-Unis. Elle est valable dans le monde entier. Pourquoi ? Dans le nucléaire, quand on certifie un réacteur en France, c'est valable en France. Et un réacteur aux États-Unis, c'est valable aux États-Unis. Et au Canada, c'est valable au Canada. Et ça, c'est l'enjeu majeur. Le seul inconvénient qu'il y a aujourd'hui, le seul problème qu'il y a, c'est que l'AIEA n'a pas la main sur les autorités de sûreté locales. Donc il faut vraiment qu'elles arrivent, ces autorités de sûreté arrivent. Je réponds à votre question, parce qu'elle est extrêmement importante et à plusieurs visages. Il faut vraiment que les autorités de sûreté arrivent à s'entendre. Il y a eu un changement profond de l'autorité de sûreté française vis-à-vis des SMR, qui a, je pense, mis un tout petit peu de temps à réagir à ce qui se passait dans le monde entier, où en fait, dans le monde entier, il y a une volonté d'uniformisation, et les Américains vont là-dedans, et les Américains sont en avance par rapport à tout le monde. Pour un autre sujet important, très important, qui est de dire, on ne fera pas ce réacteur New World avec la réglementation nucléaire qui existe pour un EPR. Sinon, on ne le vendra jamais. Jamais. Donc, en fait, l'autorité de sûreté française a compris deux choses. Premièrement, il faut adapter la réglementation parce que c'est un réacteur qui, intrinsèquement, est beaucoup plus sûr qu'un réacteur EPR. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire qu'un réacteur EPR, il n'est pas sûr, mais un réacteur EPR, il n'y a pas de sûreté passive. Voilà. Sur un SMR, il y a une sûreté passive. Ça change beaucoup de choses dans l'aspect licensing, dans l'aspect conformité à la réglementation. Il faut que la réglementation s'adapte à ça. Et des sujets comme ça, il y en a beaucoup à prendre en compte. Donc déjà, l'autorité de sûreté s'est dit, on va être obligé de s'adapter. Et elle fait la démarche. L'autorité de sûreté s'est dit aussi, en Europe au moins, est-ce qu'on peut être fédérateur de l'ensemble des autorités de sûreté locales européennes? Et ils essayent d'avoir ce rôle-là. Je ne dis pas que c'est gagné, hein, chaque pays reste encore un tout petit peu indépendant. Mais il y a une volonté. On sent que les choses bougent. C'est tout nouveau, on sent que les choses bougent. Et quelque chose qui est extrêmement important, c'est que l'autorité de sûreté française a dit « on va faire comme aux États-Unis, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour le licensing de NuScale. On va travailler avec vous dès les phases de conception. » Et ils ont monté un groupe dédié chez eux qui va travailler avec New World sur finalement, les options qu'on prend, les options de sûreté, les options de conception, et de dire, est-ce que la réglementation qu'on va mettre en place pour les SMR, eh bien, finalement, Bagnoward y répond, va y répondre. Ou comment on peut travailler ensemble pour adapter cette réglementation au strict, au seul besoin d'un réacteur SMR. Et ça, c'est quelque chose qui est une démarche complètement nouvelle de l'autorité de sûreté. Et ça, c'est pour nous, c'est un facteur extrêmement important pour réduire le coût de développement du projet et surtout respecter le 2030 dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un peu extrême, votre vision du nucléaire pocket, mais oui, dans l'esprit, c'est ça. Mais c'est pas si... C'est un peu schématique, mais c'est avec les mains, on est d'accord. C'est clairement pour ça, je le disais tout à l'heure, hein, que dans les pays qui ne sont pas du tout impliqués dans le nucléaire aujourd'hui, ils disent, ben, finalement, je sens que la marche, elle n'est pas si dure que ça à gravir, et puis, ben, du coup... Ah oui, je m'y lancerai bien. Il y a l'aspect financier et l'aspect réglementation. Alors aujourd'hui, on est dans de la confidentialité industrielle purement. Ce projet-là, il est destiné à être exporté dans le monde entier. Donc en fait, on a retiré tout ce qui est militaire, tout ce qui est confidentialité défense. Justement, on est hyper surveillé, nous, Technicatome particulièrement, puisque comme vous le voyez, hein, j'ai essayé de vous montrer qu'il y a une base qui vient de projets militaires, mais on a enlevé tout ce qui est secret défense. Pour qu'on puisse l'exporter demain, hein, sinon on ne pourrait pas l'exporter, sinon les autorités de sûreté françaises vont nous le bloquer, c'est évidemment pas le but, pas pour ça qu'il est fait. Donc, au point de vue confidentialité défense, très faible, nul, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Au point de vue confidentiel industriel, relativement fort, parce que tout le monde sait très bien que... Enfin, vous avez vu l'équipe, quand même. Framatome, EDF, Naval Group, Technicatome, CEA. Enfin, voilà. Même Westinghouse a voulu venir travailler avec nous. Bon, ça ne se fait pas pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais Westinghouse s'est dit ouais, c'est là qu'il y a le groupement gagnant. Donc voilà, on sent bien qu'on est hyper regardé et donc on fait très attention à ce qu'on communique. C'est une excellente question. Eh bien, si je vous disais que tout ce qui est modélisation, c'est justement ce qui est sur le chemin critique du planning, hein, vous croyez ? Parce qu'en fait, la modélisation numérique, c'est quelque chose de merveilleux, c'est super, hein, c'est un outil extraordinaire. C'est très, très dur à gérer, à créer, à mettre à jour, à nourrir, parce qu'en fait, on a une modélisation numérique, les données, il faut les données expérimentales, on en a toujours besoin. Il faut nourrir ces codes-là. Et bien justement, aujourd'hui, c'est ça le sujet. C'est qu'en plus, on cherche à aller toujours plus loin dans la performance, dans l'efficacité du produit. Et donc, on cherche toujours à avoir des codes qui sont les plus optimisés possibles. On cherche en plus à avoir des codes maintenant de plus en plus franco-français. On s'est beaucoup appuyé sur les Américains jusqu'à présent et ils commencent à nous dire d'être en concurrence... On ne vous les donne plus, donc il faut qu'on vive de nos propres ailes. Et puis en plus, voilà, ces codes-là, on va les pousser dans leurs retranchements les plus ultimes. Donc en fait, on est dans des évolutions des codes, même sur les EPR2 d'ailleurs. Alors on utilise les codes des EPR2, hein, ça c'est très clair. Hein, la France n'a pas les moyens de développer plein de codes. Donc On est vraiment là-dessus, mais dans des nouvelles générations de codes qui font que bah, c'est eux qui se retrouvent aujourd'hui sur le... C'est eux qui font le planning. C'est parce qu'on a besoin des codes pour faire les calculs, pour qualifier, pour donner des dossiers propres aux autorités de, à l'autorité de sûreté française, dans l'ASN. Et après, il y a le temps d'instruction de l'ASN. C'est ça qui fait le pas de temps, c'est ça qui fait les 9 années qui nous séparent du premier béton aujourd'hui. Et qui fait qu'on est, on est sous pression. Ouais. Oui. Oui. Alors, on est à fond dedans, là. En fait, tout ce qui est code, tout ce qui est système intégration, on parle de jumeaux numériques partout, pour ceux qui sont dans l'industrie, là, jumeaux numériques, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Aujourd'hui, on met tout ce qu'on veut derrière, mais on est vraiment, enfin Technicatome notamment, hein, et Naval Group, parce que le militaire nous a poussé à faire ça. On est vraiment au top niveau, on est même, on en parlait à midi, hein, presque mieux que l'aéronautique hein, sur ces sujets-là. On est en tout cas au moins au même niveau que l'aéronautique qui est vraiment déjà en pointe. On travaille beaucoup avec Dassault hein, pour tout ce qui est logiciel, on est sur Katia évidemment, mais avec tous les perfectionnements qui vont autour de Katia. Donc en fait, tout ce qui est jumeau numérique, ça va très très loin dans le nucléaire. On est à fond dedans, fabrication additive aussi. Ingénierie système, intégration de l'ingénierie système, on est sur ce sujet-là. Naval Group est un des leaders dans la fabrication additive. Il y a plusieurs composants critiques majeurs hein, qu'on prévoit de faire en fabrication additive. Ouais. Tout ça, là, je veux dire, le nucléaire est quand même technologie de pointe. Hein. Et on l'intègre parce que ça va être des éléments, effectivement, qui vont nous permettre de gagner en coût. C'est là où justement ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, des travaux qui se font dès la phase de conception avec eux, justement pour l'intégrer, oui. Oui, ça c'est. Oui, alors on est sur des générations 3. Encore une fois. Donc, c'est pas comme les générations 4 où on va utiliser carrément du combustible, justement avec recyclage. Alors on peut recycler, oui, on peut le réenrichir, on peut, etc. Ça, c'est possible, mais voilà, on est dans des technologies un peu conventionnelles, là, encore. Hein. C'est les générations 4 qui utiliseront du combustible usagé. Voilà, on n'utilise pas. Par contre, pas de MOX, pour ceux qui prévu, c'est pas prévu. On n'utilise pas de plutonium, quoi, globalement. Dans le combustible, on prend un combustible vraiment basique de chez basique. Voilà.
Bien, je vous propose qu'on en reste là. On va remercier tous M. Grenier qui nous a fait un exposé tout à fait passionnant. Et donc, de toute façon, on reste en contact dans notre réseau de connaissances. Et s'il y a des événements nouveaux dans les, je ne vais pas dire les mois quand même, mais enfin les années à venir, donc on demandera à venir remettre à jour un petit peu nos connaissances. Merci encore d'être venu.
Merci à vous.
Des événements nouveaux dans les, je ne vais pas dire les mois.